Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23. On est ensemble jusqu'à 15h avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré, le journaliste de Marianne Perico-Légas, le journaliste média mais pas que Thierry Moreau et puis le désormais propriétaire de Gîte, Jérôme Lavrieux. On est avec vous également grâce au 32-16 pour répondre à cette question. L'Allemagne qui supprime une grande partie de ses ZFE, doit-on faire pareil en France et arrêter les zones à faible émission? On attend bien sûr vos commentaires. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On reviendra notamment sur la grève des éboueurs, les poubelles s'entassent un peu partout en France. 13h45, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. Et encore une mauvaise nouvelle, le tarif des assurances va encore augmenter dans les mois qui viennent. À 14h, la fin des lieux-dits dans les communes, des langues régionales de moins en moins utilisées. Est-on en train de perdre nos identités régionales? 14h30, ce sera RMC s'engage pour vous avec une histoire terrible. C'est celle d'Anthony, un auditeur aveugle qui s'est fait agresser par un chauffeur Uber qui ne voulait pas le laisser monter dans son véhicule avec son chien. On va tenter de l'aider à obtenir réparation. Et puis il y aura enfin les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi.
13h03 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec la décision du jour. Et c'est celle de l'Allemagne qui a décidé de supprimer une grande partie de ses ZFE. Alors que nos voisins allemands étaient précurseurs dans le domaine des zones à faible émission, ils viennent d'en supprimer 8 sur 22. Rémi, est-ce qu'on pourrait assister à la même chose en France?
Ce qui est sûr, c'est qu'à Karlsruhe, Heidelberg ou encore dans certaines communes du secteur de Stuttgart, ainsi qu'à Schramberg, c'est près de Fribourg, terminer les ZFE là-bas. Faut le savoir, le dispositif existait depuis 15 ans. Mais désormais, il est jugé obsolète. D'après le ministère des Transports du Land allemand de Bade-Württemberg, les taux d'azote et de particules fines ont baissé dans les villes concernées de manière durable. Et même avec une levée des restrictions de circulation, il ne devrait pas remonter très fortement. Et pendant ce temps, eh bien, en France, face à la contestation sociale, certains commencent à hésiter, ou en tout cas...
Eh ben oui.
Assembler, ne pas renoncer, mais reculer un petit peu. Le président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, va ainsi proposer aux élus de reporter l'interdiction des véhicules critères 3 au sein de la ZFE du Grand Paris après les Jeux Olympiques de Paris. Ça fait un report d'un an et demi. Il y a déjà eu deux reports précédemment sur les ZFE autour du Grand Paris. La métropole de Lyon a également décidé de revoir son calendrier. Les véhicules diesel ne seront finalement interdits qu'en 2028 et non pas en 2026, comme le prévoyait le premier calendrier.
Alors, faut-il supprimer les ZFE en France? Je vais commencer avec vous, Jérôme Lavrieux.
Oui, tout de suite.
Ah, très bien. Bon, bah écoutez, allons-y alors.
Oui, tout de suite. Parce que créer des ZFE dans des métropoles, notamment en province, ça aboutit à assigner à résidence des personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur vieille voiture pour se déplacer, pour aller travailler. Parce qu'il n'y a pas de métro, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, ou quand il y en a, ça ne fonctionne pas aux heures auxquelles ces gens-là doivent aller travailler. Donc ça veut dire que non seulement vous habitez en banlieue, non seulement vous habitez dans un quartier dégradé, non seulement vous habitez dans un immeuble dégradé, mais vous ne pouvez pas aller travailler à 5h, 6h, 7h du matin pour faire le travail que les autres qui habitent avec leur belle voiture électrique, leur belle Tesla ou je sais pas quoi, en plein centre-ville, ne font pas, ne veulent pas faire. Donc c'est de l'assignation à résidence, c'est de la relégation dans des quartiers, c'est un scandale absolu, c'est ce qu'on appelle l'écologie punitive. Sans qu'on ait prouvé de quelque manière que ce soit, jusqu'à présent, ce que Rémi vient de nous expliquer fort savamment, c'est que en fait les Allemands prouvent que ça ne sert à rien.
Alors qu'ils sont plutôt précurseurs dans tout ce qui est écologie, etc.
Donc ça, c'est du dogmatisme vert qui est totalement ridicule. Et comme par hasard, ceux qui veulent le reporter vont le reporter après les élections.
Oui, enfin, quand vous parlez de dogmatisme, il faut savoir quand même que le RN, il y a 3 mois, a déposé justement une proposition de loi à l'Assemblée nationale avec justement en proposition la suppression des ZFE. Ah, c'est pas passé loin, hein, parce que ça a été oui avec 94 voix et non à 109. Donc en fait, Voilà, la majorité a voté pour le non, mais enfin, c'est bien pas sûr. Non plus une énorme majorité. Et vous avez dans l'Assemblée énormément de députés qui pensent qu'il faut supprimer les ZFE, mais qui, par dogmatisme, justement, votent contre la suppression des ZFE. Et ça, c'est vraiment de la tambouille politicienne, Thierry Moreau.
Mais pour étendre ce que disait Jérôme, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Quand on a dit le Grand Paris, par exemple, on a l'impression que c'est les gens de Paris qui n'auront plus le droit. Non. Mais moi, qui habite à 70 km de Paris, je suis en pleine Cambrousse, je suis à quelques mètres, quelques kilomètres du 28 et de l'Eure-et-Loire, je ne pourrai plus utiliser. Et on est à la campagne. Et les gens, ils ont pas des voitures électriques. Donc, c'est un premier problème.
La deuxième chose. Tu es le poumon vert donc, de la région Île-de-France et tu pourras pas, alors que tu es dans le poumon vert, venir avec ta voiture
évidemment,
dans le centre de Paris.
Il faut suspendre ou assouplir ou changer ou reporter, ou décaler, etc. Ouais. Sur le papier, théoriquement, c'est un truc très très bien, mais c'est inapplicable. Et je voudrais revenir sur le chiffre qui est donné systématiquement dès qu'on parle de ce problème-là. 47 000 morts, soi-disant, par la pollution chaque année en France. Alors, en fait, déjà, c'est une donnée, quand on regarde, ce sont sur des chiffres basés d'il y a 20 ans. C'est basé sur des données d'il y a 20 ans, qui n'ont pas du tout été réactualisées. Depuis, on a réduit d'un tiers les émissions de particules fines dans les transports. Donc, de toute façon, déjà, ça, on n'est plus sur cet étiage-là. La deuxième chose, c'est que 34% de ces émissions de particules fines, c'est du chauffage domestique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le chauffage domestique aussi?
On supprime les cheminées.
Voilà, ça va être très compliqué. Donc, de toute façon, là aussi, comme vous l'avez très bien dit, c'est du dogmatisme. Donc, il est urgent de ne pas exclure la moitié de la population française et de suspendre, d'assouplir ou de reporter les ZFE.
Est-ce que le gouvernement Perico-Légas serait bien avisé justement de suspendre ces ZFE, de faire un petit geste en faveur des Français les moins favorisés? Parce qu'on l'a beaucoup dit dans cette émission, mais c'est une réalité. Les gens qui roulent en critère 5, c'est parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter une critère 1, sinon ils ne rouleraient pas en critère 5. Hein.
J'hallucine là.
Quoi?
Parce qu'on est dans les deux expressions qu'on vient d'entendre. Là. C'est typiquement le mal français. Ils ont raison, chacun sur ce qu'ils soulèvent.
Alors,
il n'empêche que la pollution automobile est un fléau planétaire qu'il faut endiguer le plus vite possible. C'est une catastrophe. Alors, on n'a pas pris... On prend les mesures, effectivement, de restriction, sans prendre les mesures structurelles et industrielles qui permettent d'y arriver. Alors, si le moteur électrique était gratuit, si on prenait l'accompagnement, mais il faut résoudre... Les ZFE, c'est une nécessité. C'est pas seulement c'est le pays entier, c'est le continent entier qui doit être à faible émission. Sinon... On a vu sur l'eau ce que ça donne. Un jour, on viendrait en disant, les ZFE, on les a mis de côté. Les Allemands sont impossibles. Ils veulent pas d'énergie nucléaire. Ils sont en train de remettre du charbon. Et là, évidemment, ils ont des grosses Mercedes et leur industrie automobile a besoin de rouler. Je comprends pourquoi. Ils disent ensuite, non, on a fait des études de quoi. C'est moins pollué maintenant parce qu'il y a moins d'azote. Enfin, on sait très bien que le moteur thermique est un fléau.
Mais plus avance, plus t'auras des voitures, qui
émettent moins de particules. Il faut arrêter le moteur thermique. Alors, je sais pas si c'est la ZFE. C'est 2035, je crois.
Oui, mais ça va pas le faire, parce que Thierry Breton l'a dit ce matin.
Parce qu'il y a eu un vote la semaine dernière au Parlement européen. Et qui a posé son veto?
L'Allemagne.
Eh oui, donc le lobby automobile industriel qui fait du fric aura toujours le dernier mot
et on dira de milliers de personnes.
Alors donc on va avoir des emplois.
Les ouvriers,
mais c'est formidable.
C'est ce que tu vois de là d'où tu habites. Les ouvriers, ils travaillent dans des usines.
Mais construisent
des voitures.
Ton analyse est totalement vraie. Il y a des gens qui vont être pénalisés, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter.
C'est les plus pauvres qui vont être pénalisés. Toi, ça te gêne pas.
Donc ça veut dire les pauvres sont pas pénalisés, mais on va tous crever.
Si les pauvres sont pénalisés,
on va tous crever.
Les enfants qui vont payer. Les enfants. Ah non.
Comment
si on tient ce discours que je viens d'entendre, nos enfants vont payer, pas nous, nos enfants vont payer, la planète sera dans un état épouvantable.
Tu as mille fois raison, mais comment tu expliques à des gens que les mêmes élus, dans la même décision, décident d'interrompre le prolongement et la construction de nouvelles lignes de métro, et disent en parallèle, vous ne pourrez plus venir vous déplacer
avec
votre
l'explique
voiture.
Pas, je le dénonce. Ces hommes politiques-là sont irresponsables. Donc je dis que la ZFE est une nécessité, mais elle doit être accompagnée d'une mesure.
Mais qui te dit que c'est une nécessité?
Parce que la pollution des moteurs thermiques à carburant fossile est un fléau.
C'est faux.
Mais c'est pas vrai.
Aujourd'hui et ce matin, Thierry Breton, qui était l'invité, ce matin, il a expliqué.
Le prince des lobbies.
Je vais terminer ma phrase.
Mais oui, mais tu me parles comme un lobbyiste, là.
Pas du tout. Il a expliqué.
On dirait Thierry Coste.
Automobile,
oui.
Ne pourrait plus vendre
voilà,
en Europe, mais vendrait dans les autres pays parce qu'on a des moteurs aujourd'hui qui polluent très peu.
Et puis dans 10 ans, on sera comme. Oui, alors que ce raisonnement, dans 10 ans, on sera comme aujourd'hui avec l'eau. On va couper l'eau. Ça fait 10 ans qu'on vous dit qu'il va y avoir des nappes phréatiques. Tout le monde se fout de notre gueule. Aujourd'hui, on est arrivé, on va avoir des coupures d'eau. Et un jour, on aura des. Ah, il faut les faire des ZFE.
Saint-Germain-des-Prés, je te rassure.
Vous êtes des pompiers incendiaires.
Vous êtes des pompiers incendiaires.
La personne qui ne peut pas s'acheter aujourd'hui une critère 1, d'accord, son véhicule. mais son véhicule, c'est pas Jeanne Calment. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu veux, sa voiture,
le RMIS qui roule en diesel, évidemment qu'on va pas. Évidemment.
On fait comment ? Dans les ZFE, c'est ce qui se passe.
Mais justement, c'est ta voiture.
Sauf que le problème reste posé.
D'accord, mais.
Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je vous dis, qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas laisser rouler en diesel.
C'est quoi ta solution ?
Mais tes vieilles voitures d'aujourd'hui, dans 5 ans, elles seront à la casse, d'accord ? Donc ces gens-là seront obligés de racheter les voitures qui, de toute façon, pollueront moins puisque ce sera des voitures plus récentes, etc., etc. Aujourd'hui, les voitures qui sortent des usines, elles ne polluent plus. Elles
émettent moins.
Elles émettent moins.
30 fois moins.
Mais oui, et si 30 tu roules fois à moins
de voitures avec critère
1 aujourd'hui. Et si tu roules à l'E85, c'est 80% de moins de pollution. Voilà.
Donc, je prends sur les milliards que l'on verse à l'Union européenne et j'achète... Je donne des subsides aux gens qui ont besoin de voitures non polluantes.
Tu sors de l'Europe.
Bien sûr.
Non, je reprends un peu d'argent.
Mais voilà.
Je sors de rien du tout, on n'y est pas.
C'est les milliards.
L'Europe? Non.
C'est les milliards
on redistribue.
Qui permettent de construire les batteries pour les voitures électriques pour qu'elles soient moins chères.
Ah, ben oui. Et puis tout ce que, commande en Chine. Donc si on pense un peu à notre économie, peut-être qu'on peut donner aux gens qui ont besoin de voitures propres les moyens de se l'acheter. Ça serait une grande mesure industrielle qui créerait des emplois et sauverait l'emploi.
Mais c'est contraire à vos principes libéraux. On est passé. C'est un chèque de 100 euros, un chèque énergie à une bagnole à 30 000.
Mais attendez, c'est un choix de survie. Est-ce qu'on arrête les ZFE ou est-ce qu'on les maintient?
Incroyable.
Est-ce qu'on pollue la planète ou pas?
Peu importe l'aide que tu donneras pour l'achat d'une voiture.
Oui, quand vous serez pas là.
Il y a des gens, un truc vraiment que tu n'imagines même pas, il y a des gens qui roulent avec des voitures qu'ils achètent 1500, 2000 euros
maximum. J'en connais.
Donc, quelle que soit l'aide que tu donneras pour une voiture neuve, ils n'y auront pas accès.
Mais ces voitures-là, elles disparaîtront bientôt.
Les gens suppriment le diesel.
Des gens qui roulent dans des voitures à 200 000 km.
Oui, mais ça veut dire qu'en fait, les réparations coûtent plus cher que la voiture. Donc elle a...
Ah, bah, tous les matins, ils croisent les doigts pour dire si ma voiture est là, je perds mon boulot.
Oui, mais donc, au premier pet de la voiture, tu es obligé d'en racheter une autre, malheureusement.
Deux éléments très, très rapidement.
Rémi Barré.
L'âge moyen des voitures en France ne cesse de vieillir. On en est aujourd'hui à 12 ans.
Oui,
mais c'est pas par plaisir, c'est parce que les gens n'ont pas les moyens.
Évidemment.
Et ils hésitent et ils se disent ma voiture, de toute façon, j'arriverai pas à la revendre, c'est un vieux diesel. Donc, je la garde jusqu'au bout.
C'est ça.
Et il y a peu de temps, je crois que c'est la semaine dernière, il y a les réparateurs auto, les garagistes de France, leur association, qui a mis en garde parce qu'ils constatent qu'il y a de plus en plus de personnes qui renoncent à faire des réparations sur leur véhicule. Et même si, le véhicule peut s'avérer au bout d'un moment dangereux, il y a de moins en moins de gens qui ont les moyens de faire des réparations sur leur véhicule.
Alors, on est avec Nicolas qui nous appelle déclassant en Ardèche, mais qui va aller dans le sens de Perico parce que Nicolas, il vient juste de Dortmund et il est commercial. Bonjour Nicolas.
Et bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Nicolas, vous êtes bien passé pour nous parler des ZFE en Allemagne. Vous revenez de Dortmund et apparemment, la pollution, elle se voit quand même là-bas.
Alors, la pollution, elle se voit, elle peut s'entendre, elle peut se deviner. Alors, dire que je suis à 100% avec Perico, et pourtant, je suis souvent d'accord avec lui, je n'irai pas vraiment à 100% pour le coup.
85 me suffisent.
Mais ça sera peut-être quand même un peu moins. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est que il y a deux choses qu'il faut mesurer là-dedans. La première, c'est le fait d'imposer ces ZFE. Aujourd'hui, on se rend compte que, et je reprends les discours qui ont été donnés à l'instant, on se rend compte qu'il y a une quantité astronomique de gens qui n'auront pas les moyens d'avoir ce véhicule et ce type de véhicule pour accéder à ces zones. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir rouler en électrique en voiture personnelle. Donc j'ai envie de dire que je me sens plus ou moins concerné et que ça me pose pas de problème particulier. Mais après, si on veut revenir sur le choix de l'Allemagne, souvent nos politiques comparent la France à l'Allemagne. On se colle à l'Allemagne. Il n'y a pas que sur les ZFE. En fait, tout le reste est complètement différent de chez nous. Aujourd'hui, on a un pays qui est beaucoup plus permissif, mais je pense aussi qu'il y a une éducation qui est complètement différente. Et chez nous, c'est ça le problème, c'est qu'on est obligé de passer par l'obligation, et c'est se mettre des gens à dos, c'est se mettre une partie de la population dans une situation compliquée, financière, qu'ils ne pourront plus assumer pour aller se déplacer dans les villes, pour aller chez le médecin. Mon propre père n'a pas les moyens de s'acheter une voiture Crédit 1. Et c'est là où on a un gros problème avec la France, c'est qu'on est dans un pays qui est très moralisateur, qui fait tout pour passer pour le bon élève, mais systématiquement par l'obligation. Et je pense qu'aujourd'hui, on se calque sur l'Allemagne, mais on est très très loin de la façon d'agir d'Allemagne. Aujourd'hui,
mais l'Allemagne, ils sont plus vertueux en Allemagne, pour vous ?
Alors, dire qu'ils sont plus vertueux, concernant simplement les émissions de gaz, je n'ai pas les chiffres et je suis pas scientifique pour m'avancer là-dessus. En revanche, ils sont beaucoup plus, ils écoutent beaucoup plus ce qu'on leur dit,
ils acceptent plus
et ils sont beaucoup plus respectueux. Vous prenez les limitations, il y a certaines portions qui n'ont pas de limitations, c'est pas pour autant qu'il y a plus d'accidents. En revanche, dès l'instant où il y a un panneau 70 ou 120, tout le monde respecte. Voilà, il y a toute une façon de voir, une façon de vivre en Allemagne qui n'est pas du tout la même qu'en France. Aujourd'hui, on annonce que l'Allemagne veut les abandonner, c'est des
8/22.
Voilà, 8/22, ça fait déjà 15 ans qu'elles sont mises en place. Donc, il y a dû forcément y avoir des études. Et aujourd'hui, si les études disent qu'on a pu baisser significativement, et là, après, je rejoins votre discours de les autres 50%, aujourd'hui, on fabrique des voitures thermiques qui seront certainement plus abordables pour la moyenne classe et la petite classe, et qui permettront d'accéder à ces autres. Donc, la maintenir, l'idée est bonne au départ, les maintenir et les imposer par obligation, je pense que c'est une grosse erreur, encore une fois de plus. Et
oui, sauf que Nicolas, vous dites l'Allemagne abandonne ses ZFE parce que certainement ça a obtenu l'effet escompté. Moi, j'ai envie de vous dire non, l'Allemagne en fait abandonne ses ZFE parce que justement il n'y a pas d'effet. Vous pensez bien que si ça avait un réel effet, un réel impact, l'Allemagne ils abandonneraient pas leurs ZFE. Ils les abandonnent parce que ça ne marche pas en fait et parce que la différence entre les ZFE et les non ZFE, eh ben elle est tellement pas significative que finalement ils se rendent compte que ça sert pas à grand chose.
ZFE n'a de sens que si elle est générale. Ça veut dire quoi des isolats? C'est absurde. C'est tout pays qui a ZFE.
Enfin, si t'es au milieu du Cantal, tu penses bien que t'as pas besoin de ZFE, Péricot, parce que tu roules pas. En revanche, si t'es abordé une grande ville, t'as besoin d'une ZFE, réfléchis.
Sauf qu'à un moment donné, tu déplaces le phénomène, inévitablement.
Ah bah non, t'auras jamais une pollution.
Ton nuage ne va pas se déplacer au-dessus du Cantal. Hein.
Avec d'autres formes de pollution, si. C'est le cumul de toutes les pollutions qui est
nocif. Bon. On est avec Yves Cara, c'est notre invité sur ce débat, porte-parole de l'Automobile Club Association. Bonjour Yves.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Mais ça fait plaisir de vous retrouver, Yves.
Ouais, carrément. Ah, écoutez, c'est un pur bonheur d'entendre d'abord vos débats et de revenir sur les ZFE parce que tous les politiciens qui ont allumé la mèche de la ZFE ne savent pas comment l'éteindre parce que ça va leur péter à la figure.
Bien
voilà,
sûr.
C'est ça l'image. Et depuis le début des années, on a été tout de suite contre parce que on a forcément mis, nous et comme d'autres, en avant tout ce qui allait se passer maintenant. Eh ben, ça se fait effectivement, et vous avez tout à fait raison, Estelle. S'il les enlève en Allemagne, c'est qu'il n'a pas prouvé son efficacité.
Ben voilà,
en Allemagne,
évidemment.
Plein de pays, en Suisse également. C'est une première chose. Et puis, je voudrais répondre à ceux qui disent que le moteur thermique, c'est le diable. C'est pas le moteur thermique, le diable. C'est le pétrole qu'on met dedans. Et là, on est tout à fait d'accord. Mais on sait remplacer le carburant fossile du pétrole par tout autre chose. Ça peut être de l'hydrogène, ça peut être de la biomasse, avec nos déchets, avec du bioéthanol. Il y a même s'il y a encore un peu de pétrole, mais on sait remplacer. Et plutôt que de perdre son temps, parce qu'on perd notre temps et on perd notre industrie sur du 100% électrique qui est un leurre, là aussi, il y a des années que je le dis dans votre émission, ça ne marchera pas l'électrique, ça ne sera pas accepté. Ça commence à venir. Donc, c'est pas les moteurs thermiques le diable. C'est le pétrole qu'on met dedans.
On parle d'énergie fossile, hein, monsieur Carin, d'énergie fossile.
Non, mais tu te rends compte, Péricot, que les voitures au bioéthanol peuvent même pas rouler dans les ZFE.
Non, mais je suis d'accord avec monsieur Carin, c'est l'énergie fossile le problème.
Oui, mais c'est important de préciser que.
Bien sûr, c'est important de préciser.
Mais tout à fait.
C'est l'énergie fossile. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de problème de moteur thermique. Et je vais vous dire, le gros problème de tous ces députés européens, c'est qu'ils ont fait, ils ont pris des décisions contre une industrie. Et pas avec l'industrie. Et ça, c'est un gros problème. Et là, on le paye aujourd'hui.
Oui, ça, vous avez raison, Yves. Et ça fait réfléchir Péricot, qui tout d'un coup est devenu muet, ce qui est assez.
Ah non, j'ai pas la parole, mais j'ai plein de choses à dire.
On n'est pas la parole.
Je vais pas monopoliser le dialogue. Ils en ont parlé aussi.
C'est la première fois que vous ne le faites pas. Enfin, excusez-moi.
C'est-à-dire. Je viens de dire que je suis d'accord. C'est le problème, c'est l'énergie fossile.
Alors.
Voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous roulons tous à l'énergie fossile. Donc, faut résoudre ce problème d'énergie fossile. Le pétrole va un jour, ça va s'éteindre. On aura la solution. De force.
Voilà.
Mais pour l'instant, ça fait des dégâts environnementaux absolument gigantesques.
D'accord. Donc là, en 10 minutes, vous avez dit que maintenant, on n'aurait plus d'eau, plus de pétrole, on n'aura plus rien. Quoi.
Ben, c'est factuel.
D'accord.
Mais c'est pas moi qui décide. Le fait qu'il n'y ait plus d'eau, c'est.
Dites-donc, j'espère que c'est pas demain. Hein.
Et le pétrole va se tarir forcément. Et d'ailleurs, les pays producteurs le savent très bien qu'à un moment donné, ils sont en train de repenser leur futur enrichissement.
Rémi, vous avez plein de messages sur la pierre MC.
Très nombreux messages de personnes qui s'interrogent sur le fait de savoir comment elles vont pouvoir affronter ces ZFE avec les moyens qu'elles ont. Il y a Patrice qui nous dit, il faut arrêter les bêtises. Il y a des années, on nous avait vendu la gloire du diesel et pour vendre l'électrique, on nous interdit aujourd'hui l'utilisation de ce qu'on a. Et moi, je ne vois pas comment je vais faire. Autre exemple très concret, Yannick qui nous dit, cher Jamy, mon Kangoo a 315 000 km et lorsque ce petit bijou me lâchera, j'aurai un budget d'environ 3 000 €. Donc, l'électrique et les ZFE, c'est dans vos rêves, voilà, l'une ne pourra pas en tout cas affronter la réalité des choses. Et, dernier petit message,
bien sûr,
on a le temps.
Oui.
Message très concret, c'est vrai, il y a Jeanne qui nous dit « Bonjour, personnellement, je suis en surendettement. J'ai une voiture qui date de 2007, que j'entretiens. C'est ma seule richesse, mais avec les ZFE, je ne pourrais même plus aller faire mes courses ou aller chez mon médecin ou à la clinique. C'est impossible, évidemment, pour mon cas personnel, de faire un crédit. »
pour acheter un véhicule neuf.
Ça, c'est à cause de Péricot et des gens comme lui.
Ça peut être un déclencheur de révolte bien plus important que la retraite et bien plus important que la taxe carbone qu'a donné les Gilets jaunes.
Mais ne me redites jamais, Estelle, que je n'ai rien à dire parce que je vous fais une ZFE.
Ah, j'ai jamais dit que vous n'avez rien à dire.
Ah non, mais je vous fais une zone à forte expression en ZFE. Vous allez voir, je monopolise la parole pendant 25 minutes
en parlant du fait de prendre ça. C'est ce que vous faites d'habitude, ce sera comme d'habitude.
Du tout rendu.
Je pense que c'est interdit.
Ça ne nous gênera pas. Bon, on vous aime comme ça, Péricot. On est avec Jean-Christophe qui nous appelle de Troyes et qui est viticulteur. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Et vous êtes anti-ZFE, hein, Jean-Christophe.
Bon, c'est pas vrai. Mais vous savez, moi, c'est à la campagne, on n'est pas trop bête avec ça. Mais moi, ce qui m'a fait rager, surtout, c'est quand Périgot, il a été repris par M. Carin déjà. Le fléau des moteurs thermiques. Mais on parle du fléau des batteries.
À pétrole, à pétrole.
Oui, non, vous avez dit thermique au début.
Oui thermique à pétrole.
Vous avez rectifié comme
ça. Non, à hydrogène, thermique à hydrogène, c'est formidable.
T'as dit thermique au début.
J'ai dit thermique, mais bien entendu, c'est le pétrole qui est la cause.
Ensuite, si je peux continuer deux minutes. Je voulais dire aussi, on parle du scandale aussi des batteries au lithium qui sont récoltées par des petites personnes qui habitent en Afrique, là, par exemple, aussi. Ça vous dérange pas si ça se passe pas chez nous, quoi, en fait? En fait, c'est la politique de balayer, de mettre sous le tapis, en fait. On voit pas, et puis on met sous le tapis. Si c'est sous le tapis, c'est pas grave.
C'est grave, Jean-Christophe, évidemment, c'est grave. Enfin, à un moment.
Non, mais je suis ironique en disant ça, mais je veux dire, il y a
Vous produisez quoi, du champagne? Vous produisez du champagne?
Oui.
Mais il y a du gaz carbonique dans le champagne. Qu'est-ce que vous en faites après? C'est dangereux? On est dans un débat loyal. Ce qu'on dénonce, c'est la pollution des moteurs thermiques.
Mais ce que dit Jean-Christophe, c'est que l'électrique n'est pas la panacée.
Mais je n'ai pas dit que c'était la panacée.
Le problème, c'est que rien n'est la panacée. À chaque fois qu'on sort quelque chose, tout le monde te dit oui, mais alors là, il y a un problème par-ci, il y a un problème par-là.
On est d'accord.
C'est-à-dire que l'électrique, tout le monde dit que c'est bien, on te dit que c'est pas bien. L'hydrogène, on te dit que c'est dangereux.
C'est pas l'idéal.
Il y a un problème partout. Le bioéthanol, on te dit qu'il n'y aura plus de betteraves. Enfin bon, bref, là, voilà, tout est un problème.
On va revenir à la voiture à cheval.
En fait, toutes les solutions qui permettent de polluer moins sont les bienvenues. Là où c'est un problème, c'est quand on impose du jour au lendemain aux gens sans leur offrir d'alternative en termes de coût d'acquisition du véhicule propre ou alors en termes de transport en commun. Et on ne peut pas d'un côté dire il n'y aura pas de métro, mais il n'y aura plus de voiture non plus.
On voit ce que
devient
du Paris.
Oui, mais créer des transports en commun, ça pollue.
Merci pour cet exemple.
Pour rectifier ce qui a été dit tout à l'heure, le problème à l'heure actuelle, c'est que vous avez des métropoles qui ont voulu aller plus vite que la musique.
C'est ça.
Et Lyon
pour la nouvelle. Aux écolos.
Que le roi.
Pour plaire aux écolos.
Parce qu'ils sont écolos. Et c'était dans leur programme dogmatique. Donc c'est un peu facile de taper sur le gouvernement. C'est la faute du gouvernement. Le gouvernement, il rappelle, il dit mais si vous respectez le calendrier initial, c'est pas pour tout de suite. Laissons le temps de développer les alternatives. Donc ce serait pas mal. Et le fait de dire ce serait l'Europe qui nous imposerait ça, les Allemands, en l'arrêtant, démontrent que l'Europe n'impose rien du tout en la matière, puisqu'ils ont la possibilité légalement.
Les Allemands ne roulent que pour leur gueule et ils en ont rien à foutre des intérêts européens.
Ils ont bien raison.
Ça c'est le cri du cœur.
Défends les écolos à Lyon si tu veux, mais c'est eux qui vont plus vite que la musique.
Yves Carra, on est quand même obligé de faire quelque chose contre la pollution, parce qu'effectivement, alors personne n'est d'accord sur les chiffres, notamment 47 000 morts par an à cause de la pollution, mais enfin, on voit bien que c'est quand même pas une bonne chose, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre ça au niveau des automobilistes?
Déjà, il y a une chose qui se prépare dans tout ce que j'entends et tout ce que je vois, c'est qu'on ne remplacera pas le pétrole par une seule et même énergie. Donc il y aura plusieurs énergies. On va faire le maximum et on perd du temps encore une fois en se concentrant sur les batteries. On va faire le maximum pour que toute la mobilité, qu'elle soit d'ailleurs en avion, en bateau ou en voiture, pollue le moins possible. Mais c'est comme les déchets, c'est comme le plastique, c'est comme les pesticides. Il faut réduire. On est tout à fait d'accord. Vous savez, il y a quand même deux conséquences sur les décisions qui ont été prises. C'est d'abord que la politique, c'est quand même d'apporter un peu de bonheur aux gens ou le plus possible. Et là, ils ont créé toutes les conditions d'une angoisse supplémentaire en se disant « Allez, on va mettre de l'électrique. Ah ouais, mais attention, les Chinois arrivent, on n'aura plus de pétrole. » Donc, ça crée de l'angoisse et ça apporte des problèmes et pas des solutions. Et puis, il y a un chiffre très concret que je vais vous donner. En 2022, ça fait des décennies que les Chinois essaient d'envahir, en tout cas de prendre le marché automobile européen. Ouais. Ça y est, c'est fait. On leur a donné les clés. 140% de voitures chinoises vendues en plus en 2022. Voilà.
Ouais, 140% de rien du tout.
Sur l'électrique.
Yves Carin a raison. Yves Carin a raison.
Mais bien sûr.
C'est une démission de l'Occident et de la France et on va le payer très cher. Entre autres.
Merci Yves Carra d'avoir été notre invité sur ce débat. On va terminer avec des messages, Rémi, et puis le résultat de la consultation sur les ZFE, où j'ai comme une petite idée du résultat.
Oui, ce message, par exemple, de Yannick qui nous dit « Je travaille en déplacement et pour mes déplacements professionnels, j'utilise un camping-car de 1998 que j'entretiens un maximum. Ouais. 2000 euros de frais d'entretien en un an. Avec les ZFE, bientôt, je ne pourrai plus travailler. » C'est un message de Guévan, non pas de Thierry, mais de Guévan. Et alors, si le gouvernement envisage, cherche une réforme qui serait très populaire,
c'est une pas décision,
celle-là. Celle-là, elle le serait. C'est oui pour 86% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux, oui pour la suppression des ZFE.
Mais c'est vrai que là, pour qu'on les aime un peu avant la réforme des retraites, si le gouvernement disait je supprime les ZFE, tout d'un coup, les gens seraient mieux. Quoi.
Vu la réponse du ministre de l'Environnement à une question d'un parlementaire la semaine dernière, on n'est pas loin d'aboutir à ce texte.
Hein. Eh bien, écoutez, nous verrons.
149.3 en plus, hein, ça passe tout seul.
Oui,
Normalement, les Verts vont s'y opposer.
Évidemment.
Pas, pas tous, parce qu'il y en a qui font des blocages.
Les Verts
pour
une majorité à l'Assemblée, non, que je cherche.
Non, ça mais ils vont voter contre.
Et c'est heureux.
Ça, c'est vous qui le dites.
Les Verts osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît.
Dans un instant, il y aura le zapping, le meilleur des RMC. On va revenir sur la grève des poubelles. Les poubelles qui s'entassent. La grève des éboueurs, pardon. Oui. Les poubelles qui s'entassent un petit peu partout en France. Et puis, faut-il arrêter de donner des chèques anti-inflation? Ce sera l'une des questions que nous vous poserons. Et puis, la relance du nucléaire en France. Est-ce qu'il faut le relancer, ce nucléaire? C'est un débat actuellement. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, il est 13h31 et c'est l'heure du meilleur d'RMC, le zapping, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va commenter tous les meilleurs moments d'RMC avec Rémi Barré, Perico Légas, Thierry Moreau et Jérôme Lavrieux. On va commencer avec un extrait des GG ce matin. Faut-il arrêter de donner des chèques anti-inflation? Dans le Nord, la mairie communiste de Trisse-Saint-Léger offre un chèque anti-inflation de 100 euros à tous ses habitants et sans condition de revenus. Un coût total de 242 000 euros pour la commune. Une dépense inconsidérée pour Kevin, auditeur d'RMC qui témoignait chez les GG.
Ah, bah c'est encore une bonne mesure pour entretenir nos cas sociaux. C'est très très bien ça. Continuons comme ça. Dépensons l'argent public à tout va et puis ne réglons pas le problème du travail. Quand est-ce qu'il y a un politique en France qui va dire qu'il faut travailler et qu'il faut être rémunéré correctement pour ce travail? À partir du moment où vous faites ça, vous réglez le problème de la plupart des Français. Il faut arrêter de se contenter de dire « Ah oui, non, mais c'est une bonne chose, ils nous font des chèques, etc., ils nous aident. » Non, ils vous font pas des aides. D'accord? J'ai pas d'enfant, j'aurai pas d'enfant. Par contre, ceux qui vont en avoir, dites-vous bien une chose, c'est que là, ils sont en train de creuser la dette de vos enfants, de vos petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants. Et que quand notre pays sera racheté par une société comme Google, etc., eh ben, on verra comment vous serez traité.
Ah oui.
Alors, est-ce qu'il faut arrêter de donner des chèques anti-inflation, Perico Légas?
Écoutez, on est là, on est de façon civilisationnelle dans l'assistanat permanent, systématique. Je dis pas que c'est totalement injuste, il y a des gens qui en ont besoin, mais ça veut dire qu'on a capitulé devant l'autre solution, qui est de réenrichir le pays par de l'emploi industriel, par un commerce extérieur, une balance, voilà. On a compris qu'on ne le gagnerait pas, on est tributaire de la mondialisation, de la Commission européenne, donc la seule chose qu'on peut donner, c'est de l'aumône. Quand je dis l'Union européenne, mais non, elle pourrait être très bien faite, mais je ne suis pas anti-européen, je te dis que l'Europe actuelle est dirigée par des banquiers, des financiers, voilà, et que l'Europe dont on rêve, et qui se fera un jour, ça sera une Europe de l'emploi, de l'égalité, de la concurrence loyale et non faussée, ce qui n'est pas le cas. Donc ça engendre aujourd'hui des situations où on est obligé de faire de l'aumône. Voilà, les paysans, ils ont des aides.
L'aumône, c'est de la démagogie de ce dont on vient de parler.
Non, on aide.
Mais peut-être qui? Là-dedans, tu peux avoir un millionnaire.
Alors, on en est maintenant à l'aide, à l'assistanat. Avant, il était au point social.
Sans condition.
Là, il est démagogique. C'est-à-dire qu'on donne des chèques. C'est-à-dire qu'on donne, c'est le panier anti-inflation. Mais c'est la fin de la civilisation. En tout cas, c'est pas un gouvernement. C'est pas un comportement politique. C'est un gouvernement.
242 000 euros de distribuer sans condition de revenus.
Mais c'est incroyable.
Non, mais pourquoi n'a-t-elle pas baissé de la pression fiscale de 242 000 euros dans sa commune?
Par exemple.
Franchement.
Ça serait une solution.
Sans condition de revenus. 242 000. Et le mec qui est communiste, 242 000 euros distribués, même sans condition de revenus.
Parce que même les riches sont
pauvres. Aux enfants.
Je préfère qu'elle baisse le coût de la cantine scolaire à la rigueur. Mais 242 000, sans condition de revenus.
Non, mais ça paraît
ça s'appelle distribuer de l'argent comme ça. Avant, il y en a qui faisaient des campagnes électorales, ils mettaient un bifton dans le magazine pour voter pour eux.
Oui, il ne doit pas y avoir non plus beaucoup de milliardaires.
C'est stupide.
Attendez, il n'y a pas non plus beaucoup de milliardaires dans cette commune.
Je suppose après, tu peux
l'enfuser. Hein.
je pense que le maire a dû se renseigner sur la situation sociale.
Bah donc, et la fiscalité.
Non, mais je après, dis pas que c'est génial, mais vous inquiétez pas.
C'est pas communiste, ça.
Bolloré, après, tu peux le refuser. Hein, moi, il m'est moi, arrivé, par exemple, dans une
moi,
société.
Je refuse jamais un chèque.
Dans une société, j'avais droit au chèque cadeau. Je ne les ai pas pris au moment de Noël parce que je savais que ceux qui n'étaient pas pris auprès du comité d'entreprise étaient reversés au Secours populaire aux catholiques.
Ah bon?
Très bien. Et donc, moi, j'estimais que j'avais assez d'argent pour offrir des cadeaux à mes enfants. Donc, je n'ai jamais pris le chèque cadeau dans la société. Parce que c'était mon...
C'est pas tout de le refuser, faut-il encore ne pas l'avoir mérité.
Ce que je veux dire par là, c'est que là, cette aide non ciblée est une aide stupide, effectivement, parce qu'elle est donnée à tout le monde. Mais, Perico, quand je t'entends dire qu'on va vers une société à l'Istana, il y a des gens qui sont tellement éloignés du travail qu'il faudra de toute façon, dans n'importe quelle société, et même
bien.
La société que tu promeus avec l'avènement du travail pour tous, il y aura toujours des gens qui seront loin du travail et il y aura toujours des gens qu'il faudra aider. En revanche, il faut à la fois faire ça et à la fois faire en sorte que ceux qui bossent puissent vivre de leurs revenus.
Oui.
Si on n'a pas ces deux jambes là, on n'y arrivera pas.
Apolline Matin, ce matin sur RMC, doit-on mettre fin à la grève des éboueurs ? Depuis une semaine, les poubelles ne sont plus ramassées dans plusieurs villes de France, et notamment à Paris, où certains quartiers croulent sous les déchets. Les habitants commencent à s'impatienter et s'exaspérer, et demandent au micro RMC des réquisitions pour nettoyer au plus vite.
Ici c'est Paris, c'est ça. Là, on n'en voit pas encore, mais le soir, ou le matin tôt, il y a des rats. Il y a des rats, oui. On revient au Moyen-Âge. C'est grave. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des conserves coupantes, il y a des morceaux de verre, il y a des choses comme ça. Et donc, tout un chacun peut se blesser. Hein. Le droit de grève, ça ne justifie pas tout. Hein. Ça ne justifie pas de faire n'importe quoi.
On fait appel à des sociétés privées pour compenser des grévistes fonctionnaires.
Perico Légas, est-ce qu'il faut envoyer l'armée ou alors réquisitionner des éboueurs pour nettoyer Paris ?
Je découvre qu'il y a une grève. C'est comme ça tout le temps ?
Non,
mais j'étais pas au courant, merci RMC de m'informer qu'il y a une grève des poubelles.
Mais
parce que Paris est une poubelle, alors ça s'est un peu aggravé peut-être, oui, mais enfin bon.
Ah oui, mais là c'est une décharge.
C'est une décharge publique puisque t'es déjà la ville.
Certains quartiers de Paris ce week-end, mais c'est effrayant quoi.
C'est terrifiant.
Ah, t'es obligé de marcher sur la route parce qu'en fait il y a tellement de poubelles sur les trottoirs que tu ne peux plus marcher sur le trottoir.
Oui, mais Paris est une ville de droite qui écrase les employés.
Oui, je crois que c'est une ville de gauche surtout.
C'est une ville de gauche.
Arrête.
Ah, j'ai tout faux alors.
Non, mais Anne Hidalgo est pour la grève, donc évidemment elle va rien faire.
Ah, elle est pour la grève, voilà.
Ben, oui, mais enfin c'est... en même temps elle habite dans un arrondissement où il y a pas.
Elle
n'est
pas confrontée au problème.
C'est une société privée qui récolte les ordures ménagères dans son arrondissement.
Ça vous choque ça, Jérôme ?
Non, moi ce qui me choque c'est d'entendre les gens. Et j'ai cru comprendre, on a fait un débat la semaine dernière, on nous expliquait que 75-80% des Français soutenaient le principe de la grève reconductive.
C'était il y a une semaine tout juste à la veille du 7 mars.
Pas celle des éboueurs. On aurait dit soutenez-vous la grève des éboueurs. Je pense que ça aurait peut-être resté.
Donc la force de conviction se dissout dans l'ordure, dans l'odeur des ordures. C'est ça.
Se dissout. Oui, ça dépend quelle
grève. Moi, j'étais contre la grève et je suis contre ses effets.
Il faut que Macron fasse comme Giscard d'Estaing. Il faut qu'il invite les éboueurs au petit déjeuner à l'Élysée.
Mais il y en a trop qui font grève.
Ouais, c'est pas pour ça qu'il y aura moins de poubelles sur les trottoirs.
Peut-être s'il en met un petit peu de beurre dans nos prairies, et puis un bon café, peut-être.
Et donc, on démontre que c'est une grève du secteur public et pas du secteur privé, puisque tu changes de rue.
Exactement.
Le secteur privé, lui, il n'est pas en grève.
Il y a trois choses qui sont scandaleuses. C'est la duplicité de la mairie de Paris qui soutient le mouvement de grève et qui ne peut donc pas autoriser les gouvernements, les maires d'arrondissement à recourir au privé parce qu'ils l'ont refusé, notamment à Rachida Dati, qui l'a expliqué.
Et au maire du 17e.
Pour pouvoir nettoyer un peu les poubelles, donc elle est coincée, la maire de Paris. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand j'entends l'adjointe à la santé publique sur un plateau de télévision dire que la recrudescence des rats n'est pas dangereuse pour la santé, il suffit de lire les communiqués de l'Académie de médecine qui explique que les rats, c'est dangereux pour les enfants, pour les maladies, etc. etc. Donc on a une mairie de Paris aujourd'hui qui est coincée entre son dogmatisme politique et la réalité d'un mouvement de grève reconductible qui pourrit la vie de tout le monde.
Je m'étonnerais pas qu'Anne Hidalgo se présente à Marseille au prochain
municipal. Mais arrêtez,
peut relier tout ça au débat sur les ZFE qu'on a eu. Ce sont les mêmes gens avec les mêmes décisions dogmatiques.
Mais d'accord, mais on fait quoi ? On va pas laisser comme ça des poubelles s'entasser à du tam et tam.
L'armée.
Elle a le pouvoir de réquisitionner.
L'armée, c'est ce qu'on
fait. On prend des chars
Léopard ou des. Comment ça s'appelle ? Non, mais l'armée.
Non, mais l'armée a autre chose à faire.
L'armée,
on est
bouillé.
C'est
pas comme s'il
n'y
avait pas la guerre en Ukraine.
Non, mais.
Mes impôts, je paye les militaires.
Je me suis renseigné. On a même plus. Non, non, non.
ménagères.
Ça va, ils ont pas trop...
Je me suis renseigné, on n'a même plus les camions. Là, si demain, vraiment, le ministre de l'Intérieur décidait de demander au ministre des Armées, on n'a pas le matériel nécessaire pour pouvoir ramasser les poubelles.
Ben non, mais tu réquisitionnes les bennes qui sont là dans les hangars. Enfin,
quand
tu vois,
est-ce que
l'armée,
quand
non,
mais c'est surtout que les incinérateurs sont... a eu le matos pour faire les camions de collègues dans les ménagères.
C'est surtout que les incinérateurs sont aussi en grève. De toute façon, on ne saura pas quoi faire des poubelles.
Oui, ça ne s'est pas vu beaucoup.
Apolline Matin, ce matin sur RMC, comprenez-vous les hausses des prix des billets de train après de fortes hausses cet hiver? La SNCF s'apprête encore à augmenter dans les prochains mois les prix des billets sur toutes les lignes. Des hausses justifiées par l'augmentation du coût général du réseau. Inacceptable pour Olivier, il est auditeur RMC et il témoignait chez Apolline ce matin.
Oui, ça me scandalise parce que on est dans une époque où on demande de moins rouler, de réduire nos déplacements en voiture, de faire du covoiturage, etc., etc. Une période d'écologie et la SNCF, eh ben, augmente à chaque fois et en même temps ils sont subventionnés et par l'État.
Olivier, vous prenez le train vous ?
Ça m'arrive de temps en temps, mais je m'aperçois de l'augmentation,
ah non, mais bien sûr. Jérôme Lavrieux, est-ce que vous comprenez ces hausses ou est-ce qu'au contraire vous les dénoncez, sachant que la SNCF a fait d'énormes bénéfices cette année quand même, hein?
Non, la SNCF n'a pas fait de bénéfices.
Ah bah si.
Mais non, elle a toujours un déficit de plusieurs dizaines de milliards.
Ils ont fait des bénéfices, mais enfin.
Moi aussi j'ai fait des bénéfices, mais je dois toujours vachement de pognon à ma banque, hein, donc il me reste rien à la fin, donc c'est pas des bénéfices. C'est le bénéfice courant, mais pour rembourser la dette. De toute façon, l'arbitrage pour la SNCF, il est simple, hein. C'est soit on fait payer à l'usager, soit c'est le contribuable qui paye.
Souvent c'est le même d'ailleurs, l'usager est contribuable.
Toujours, parce que le type qui prend jamais le train, il en a un peu marre, ça le gonfle un peu, que sur ses impôts, tous les 10 ans, on met 30 milliards pour combler la dette.
Les cotisations sociales, il y a des gens qui sont jamais malades.
Ils payent aussi des impôts locaux.
Je rajoute juste une chose.
Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement?
C'est cher. Bah, c'est le mien, je suis désolé qu'il ne te plaise pas. Donc, dis-moi ce que tu veux que je dise, je le dirai, comme ça on sera d'accord.
Non, mais je suis pas d'accord.
Il y a toujours des impôts pour les autres.
Bien, mais il y a un arbitrage.
Et tu payes des cotisations chômage.
Je rappelle que même
solidarité nationale,
un peu plus cher, ça revient moins cher que de faire deux fois le plein ou trois fois le plein et payer le péage pour la même distance.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de racket.
Non, je suis pas d'accord.
Et surtout,
Pour la Bretagne,
je fais 58 euros pour faire Angoulême-Montparnasse. Je vous mets au défi que ça me coûte moins cher pour faire deux fois le plein pour venir en voiture.
Je t'assure, quand tu prends le TGV pour la Bretagne, je t'assure que ça te coûte moins cher de faire un plein, donc grosso modo 60 euros, plus un petit peu de péage, que de payer un billet de train.
Si t'es quatre dedans.
Hein ?
Si t'es tout seul.
Mais franchement.
Moi, je paye 58 euros.
Mais t'as de la chance.
Et surtout, on arrive à une aberration.
Pour la Bretagne, c'est plus cher. T'as un abonnement.
Et surtout, on arrive à une aberration, c'est que l'avion coûte moins cher sur certaines destinations que le train. On marche sur la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je te rejoins, l'usager ne paye que 20 à 25% du prix réel du billet. Donc, faut qu'il ait bien conscience que très clairement, le contribuable contribue à payer la différence. Mais à un moment, l'État va devoir investir massivement sur le réseau ferré français.
C'est ce qu'il fait en ce moment.
Et c'est la solidarité nationale. Et c'est comme moi qui n'ai plus d'enfants à l'école, je continue de payer des impôts pour qu'il y ait des gens qui mettent leurs enfants à l'école. Ça me paraît normal, logique et citoyen.
Et sans oublier. Et sans oublier le racket de la SNCF qui a changé les délais de pénalité de retard. C'est-à-dire qu'avant, c'était 3 jours, 15 euros par billet. Maintenant, c'est 6 jours avant qu'on ne peut pas le changer et 19 euros par billet. Ça veut dire qu'on ne peut plus changer son billet de train. Sans ça, on paye 10. C'est honteux, c'est scandaleux.
Sauf si tu as une carte d'abonnement où tu peux changer jusqu'à la dernière minute.
C'est une carte d'abonnement.
Elle coûte combien la carte d'abonnement?
290 euros.
Oui, voilà, 290 euros. Enfin, tu te rends compte? Mais ça fait 25 euros par mois. Enfin, écoute.
Moi, je le prends tellement que je l'amortis.
Bah oui, mais il y a des gens qui ne sont pas dans ton cas.
Bah voilà.
C'est pour ça que je suis heureux de payer des impôts.
Bah écoutez, tant mieux pour vous. Bon. Les grandes gueules du sport ce week-end. Le 15 de France a-t-il définitivement marqué le sport français? Samedi, l'équipe de France de rugby a remporté une superbe victoire dans le tournoi des Six Nations, 53-10 face à leurs éternels rivaux anglais. Mais pour l'ancienne joueuse de tennis Sarah Pitkowski, cette victoire n'est pas suffisante pour marquer profondément le sport français.
C'est un match fondateur, c'est un match qui te réveille un patriotisme juste extraordinaire quand tu le vis. mais ça marquera s'il y a deux tournois du 6 nations d'affilée, si effectivement on peut aller chercher cette victoire.
Et même si t'es champion du monde
en octobre prochain, oui, ce sera fondateur.
Tu te rappelleras de cette victoire.
Le fameux en 90, c'est si tu y étais, ça te marque. Sinon, ça reste encore une ligne du palmarès. Extraordinaire. Mais généralement, ce qui te rassemble, c'est quand c'est une finale. C'est quand on est des millions devant la télé. Perico et Jérôme, je sais que vous avez vu ce match extraordinaire, cette incroyable victoire de l'équipe de France face aux Anglais. Est-ce que ça va marquer l'histoire du sport ou est-ce que finalement dans un an on s'en souviendra plus, Perico ?
C'est surtout la consécration d'un sport honnête, populaire, qui fait l'adhésion, épargné par la corruption et la prévarication qu'est le rugby. Par rapport au football qui s'est fait.
Le directeur général dégagé. Le responsable du mondial dégagé.
Les footballeurs seraient contents d'avoir que ça dans leur casserole. Je peux vous dire que le rugby,
vous savez que c'est en train de se professionnaliser le rugby et c'est plus le rugby d'avant.
Eh ben justement, c'est ça, ça m'inquiète. Mais ça reste encore un sport avec une éthique. Voilà, c'est des valeurs. C'est un sport régional.
Les fameuses valeurs de l'Ovalie.
Bien sûr, exactement. Et ben la preuve 51. Il y a aucun footballeur qui fera 51 face à 10.
51 buts, ouais, ça se dit.
Mais c'est complètement idiot ce que vous venez de dire là.
C'est très pertinent, mais vous êtes footballienne. Vous êtes footballienne, donc vous êtes hermétique à mon raisonnement. C'est normal.
Mais de dire, il y aura jamais
tellement acquise à la cause du football.
Si on foot, c'est idiot.
Vous êtes tellement acquise à la cause du football que vous ne voyez pas l'évidence qu'il y a un sport qui est en train de faire une résurgence avec l'adhésion du peuple français.
Quel rugby. C'est un peu dangereux quand même. Le rugby, non, pour l'instant, c'est. Il a toujours été très résurgence, il a toujours été très populaire. Le rugby,
oui, mais là, il attire la sympathie,
toujours fait les meilleures audiences d'hiver à France Télévisions, donc il n'y a aucun problème. Et oui, c'est un match qui, de toute façon, reste dans l'histoire du rugby, puisque c'est la première victoire depuis très longtemps au stade de Twickenham.
Sur un grand pays.
Et c'est le plus grand écart qu'il y ait jamais eu depuis... même Perico ne devait pas être né, c'est vous dire si ça fait tellement longtemps.
Je m'étais promis de ne plus jamais parler de sport avec Perico, j'ai fait une entorse à mon règlement.
On a fait avancer le débat pour une fois.
Ça ne se reproduira plus. Allez, dans un instant, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi et cette mauvaise nouvelle, encore une fois. Eh bien, le tarif des assurances va fortement augmenter dans les prochains mois, tout de suite sur AMC.
Pas sûr, pas trop.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h49 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi. On va parler conso tout de suite avec Stéphane Pedrazzi. La minute conso, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
La minute conso.
Et comme d'habitude, Stéphane, vous arrivez sur le plateau avec une mauvaise nouvelle, encore une. Et cette fois-ci, vous nous dites que nos assurances vont nous coûter de plus en plus cher. Merci Stéphane.
Je vais être franc, je t'ai proposé un autre sujet ce matin, tu n'en as pas voulu. Oui, les catastrophes naturelles, elles coûtent très cher aux assureurs. 10 milliards d'euros l'an dernier, c'est le niveau le plus élevé depuis 99. C'est lié évidemment à la multiplication des phénomènes climatiques, mais à la fois en termes d'intensité et de fréquence, il y en a de plus en plus. Ce qui a coûté le plus cher l'an dernier, ce sont les orages et les averses de grêle, facture de 6,5 milliards d'euros, c'était entre mai et juillet, vient ensuite la sécheresse, 2,5 milliards d'euros. Et tu as raison, ça inquiète très sérieusement les assurances depuis pas mal de temps en réalité. L'ancien patron d'AXA, Henri de Castres, avait déclaré lors de la COP21, c'était à Paris en 2015, que si la hausse des températures moyennes atteignait 4 degrés, alors le monde risquait de n'être plus assurable. Donc ça serait vraiment une catastrophe parce qu'il y a des choses que les assureurs ne pourraient plus couvrir.
Alors là, on sait que la sécheresse risque d'être assez énorme cet été. Mais pourquoi est-ce qu'on paye plus cher à cause de la sécheresse ?
Alors, on paye plus cher parce qu'il faut indemniser les victimes de la sécheresse. C'est vrai que spontanément, on pense surtout aux agriculteurs qui manquent d'eau. Mais en réalité, pour les particuliers, il y a un autre problème. Ce sont les sols argileux, en fait, qui se gonflent lorsqu'il y a de l'eau et qui rétrécissent lorsqu'on est en période de sécheresse. Et en fait, c'est l'alternance entre les périodes sèches et les périodes humides qui fait bouger les sols et qui provoque des fissures dans les bâtiments, plus ou moins importantes, mais certains bâtiments sont tout simplement menacés d'effondrement. Selon le ministère de la Transition écologique, en France, plus de la moitié des maisons individuelles sont situées dans des zones à risque. Pratiquement 10,5 millions de maisons, plus de 3 millions dans des zones d'exposition forte. La facture est considérable. Oui, les experts ont estimé la facture à 140 milliards d'euros pour les 30 prochaines années. 140 milliards.
Et qui va payer la facture ?
Alors, in fine, ça sera nous, de toute façon. Ah bah super. Mais comme tous les événements climatiques, que ce soit des inondations, des tempêtes, tempête ou des RGA, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, retrait gonflement des sols argileux, il faut impérativement un arrêté de catastrophe naturelle. Vous connaissez le fonctionnement, c'est l'État qui prend cette décision, elle est indispensable pour être indemnisée, mais elle n'est pas automatique cette décision. Parfois ça donne lieu à des conflits d'ailleurs entre des personnes victimes d'événements climatiques et l'administration. Pour financer tout ça, il y a une taxe que vous payez tous, peut-être sans le savoir, sur les contrats d'habitation, sur les assurances auto, 12% de taxes sur les contrats d'habitation, 6% sur les contrats automobiles.
Enfin, c'est énorme.
Ça alimente le fonds catastrophe naturelle qui sert justement à indemniser les personnes victimes. C'est énorme et ce n'est peut-être pas terminé parce que des experts ont calculé que le fonds est déficitaire depuis 2015. Il va falloir relever cette taxe à 18%.
Excusez-moi. Quand vous habitez par exemple, dans une zone où il y a beaucoup de sécheresse, vous ne payez pas plus cher que quelqu'un qui n'habite pas dans cette zone ?
Non, c'est le principe de l'assurance en fait. C'est, tout le monde paye pour répartir le risque des autres. Voilà, on mutualise le risque, c'est le principe de l'assurance. Même si, on va être honnête, le tarif de
base... Rémi qui habite dans le Nord, la taxe sécheresse, si vous voulez...
On est en alerte rouge, c'est ça ?
Ça dépend de la qualité du sol.
Mais bien évidemment.
Ta maison n'est pas fissurée, je veux dire...
Mais non, parce qu'elle n'est pas construite sur un sol argileux, mais on est en sécheresse. Les agriculteurs cet été ont énormément souffert dans le Nord, bien sûr.
Mais là, c'est des assurances professionnelles, ça n'a rien à voir avec des assurances habitation, par exemple. Mais au final, donc, les tarifs des assurances vont augmenter, mais de combien ?
Alors, ça va être considérable. Tout le monde a fait ses calculs. Le coût des catastrophes naturelles pour les assureurs, il est estimé à 143 milliards d'euros en France uniquement sur la période 2020-2050. C'est considérable, 43 milliards juste pour la sécheresse, c'est trois fois plus qu'au cours des 30 années précédentes. La Banque de France a fait ses calculs, elle estime dans un rapport que les contrats d'assurance vont devoir augmenter de 130 à 200% d'ici à 2050. Ça veut dire que dans le pire des scénarios, 200% ça veut dire multiplié par 3. Oui. Ça veut dire que le prix des assurances va tripler d'ici 2050, avec évidemment un risque particulier pour ceux qui sont situés dans des zones à risque, à la fois en termes d'inondations, de glissements de terrain, de sol argileux. L'autre conséquence, c'est qu'on va devoir payer plus cher la construction pour se protéger. On sait que pour éviter les glissements de terrain ou les mouvements de sol, il faut aller très profond pour poser les fondations d'une maison jusqu'à la roche. Et ça, ça peut coûter extrêmement cher. Parfois, on doit descendre à 10, 20, 30 mètres de profondeur avec des pilotis pour fixer la maison.
Ah oui.
Donc tout va coûter plus cher, la construction et l'assurance.
Ben merci d'être venu.
Oui.
Quelques conseils quand même pour payer moins cher. Peut-être que vous avez ça en magasin.
Oui, absolument. Alors si vous êtes sur le point d'acheter une maison, en ce moment, on vous parle beaucoup du DPE. Vous savez, le diagnostic de performance énergétique. Attention, dans les contrats, il y a d'autres indications, notamment le risque climatique. Est-ce que vous êtes situé en zone inondable ? Est-ce que vous êtes trop proche du littoral ? Est-ce que vous êtes sur un sol argileux ? Généralement, on n'y fait pas trop attention, on se dit bon ok, je le sais, ça permet peut-être de négocier un petit peu. Ça, il faut bien vérifier, ça va devenir un élément déterminant pour l'assurance dans les prochaines années. Et puis très égoïstement, tu le disais, si tu n'es pas dans une zone à risque, tu peux négocier avec ton assureur, parce qu'en fait la taxe catastrophe naturelle, tout le monde la paye, le montant est le même quel que soit ton lieu d'habitation. En revanche, les assureurs ont des données extrêmement précises sur les risques climatiques, et si tu es situé dans une zone où il n'y a pas de risque, tu vas payer moins cher, en tout cas tu vas pouvoir négocier un contrat moins cher.
Merci beaucoup Stéphane.
À demain pour de mauvaises nouvelles.
Oui, je ne sais pas si je dois vous remercier d'ailleurs. D'ailleurs, on parle de quoi demain ?
Je ne sais pas encore.
Ah, débrouillez-vous pour arriver avec une bonne nouvelle, Stéphane.
Hein ? Chiche. Allez, une bonne nouvelle demain.
Allez, si vous voulez retrouver la chronique de Stéphane Pedrazzi, si vous avez un peu le bourdon et que vous voulez avoir encore plus la tête dans le sac, eh bien n'hésitez pas, en podcast, bien sûr, la chronique de Stéphane sur rmc.fr, sur l'application RMC et sur toutes vos applications de podcast. Dans un instant, on parlera de la fin des lieux-dits dans les communes, des langues régionales de moins en moins utilisées. Est-on en train de perdre nos identités régionales aujourd'hui en France ? On attend vos commentaires, tiens, au 3216. Dites-nous si par exemple vous continuez à parler une langue régionale. Ça se fait de moins en moins, mais si vous y tenez, n'hésitez pas, on vous attend au standard et sur l'application RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.